Il y a longtemps que je me préoccupe du problème de la fin de l'expérience psychanalytique et je suis content de pouvoir vous dire aujourd'hui quel est l'état de mes réflexions à ce sujet. Dans la littérature, c'est plein de petites allusions quant à la fin de l'expérience psychanalytique. Par contre, il existe très peu de théories plus ou moins élaborées concernant ce problème. L'autre jour, j'ai relu dans sa nouvelle traduction L'homme au loup et je me suis aperçu en cours de lecture qu'à quatre endroits, il y a des paragraphes bien précis où Freud dit que la fin de l'analyse pourrait constater en ceci ou cela. Mais ça n'est pas précisément mon sujet, je voudrais reprendre plutôt de manière générale le problème de la fin de l'expérience psychanalytique. Pour ceci, je vais commencer par reprendre les grands modèles théoriques, les grandes options théoriques de la psychanalyse. Et je commencerai par le principal, celui qui me paraît le plus fondamental, c'est le modèle de l'appareil psychique. L'appareil psychique, chez Freud, est un appareil qui est constitué d'un assemblage, d'un montage d'énergie. En ceci, il est structuré. Et il est structuré de manière formelle, c'est toute une série, de manière topique, toute une série d'énergies à différents niveaux qui font l'ensemble de cet appareil. Et en fonction du principe de plaisir, on peut dire, on peut qualifier ces énergies. Si l'énergie a un potentiel élevé, elle sera plus proche de l'idée du déplaisir. Si l'énergie a un potentiel bas, elle se rapprochera de l'idée du plaisir. Cet appareil psychique est donc un appareil à la fois structural, formel, topique, se rapprochant davantage d'un modèle épistémologique ou d'un modèle de logique formelle que d'un modèle de science naturelle, puisqu'il ne tient pas compte des données spatio-temporelles. Il n'en tient pas compte, tout au moins il en tient compte, mais d'une manière qui serait illogique, qui serait absurde si l'on se met dans le cadre des sciences de la nature. Je vous donne rapidement un exemple à ce sujet. À supposer que je suis ici endormi paisiblement et que en même temps je sois en Amérique en train de guerroyer pour la guerre d'indépendance, eh bien il est difficile, ou il n'est pas possible d'après cette théorie, de savoir si l'appareil psychique se trouve en Amérique, il y a 200 ans, ou se trouve ici, chez moi, qui suis endormi, et pas non plus de savoir si ici, chez moi, cet appareil se trouverait localisé dans le cerveau, dans mon cœur ou dans mon ventre, par exemple. Ce qui fait qu'effectivement, il y a là quelque chose qui ne correspond pas du tout aux sciences de la nature, qui impliquerait de prendre en compte les données spatio-temporelles d'une manière tout à fait différente de celle-ci. Avec l'appareil psychique, on voit tout de suite une fin, enfin, ou tout au moins une direction à prendre en ce qui concerne l'analyse. Il s'agit que cet appareil soit mis en fonction, que cet appareil fonctionne, et l'on voit là déjà un premier critère de fin d'analyse, que cela fonctionne. Et on sait bien que ça correspond à une expérience très précise, par exemple l'expérience de la névrose obsessionnelle ou des expériences quotidiennes de psychanalyse, où l'on se dit, mais comment faire pour mettre les choses en fonction, pour que l'analysant sorte de son éternelle répétition, de cette immobilité qui nous paraît tout à fait inacceptable. L'appareil psychique fonctionnel est un appareil qui va être décrit et élaboré au fur et à mesure des progrès de la théorie ou des perfectionnements de la théorie, qui ne sont pas nécessairement des progrès. Et nous pouvons passer par exemple là au problème, puisque j'ai cité le principe du plaisir, du principe du plaisir qui va contraster avec le principe de réalité. Et on va se trouver devant une nouvelle définition possible d'une fin de psychanalyse. Quand l'appareil psychique fonctionne, cela implique qu'il doit tenir compte de la réalité qui va venir inhiber l'échange énergétique mis en fonction dans cet appareil psychique. Donc la réalité joue un rôle et vient de manière secondaire s'ajouter au principe du plaisir. À propos de la topique, on peut aussi décrire cet appareil psychique, comme vous le savez, sous deux angles topiques. Le premier modèle topique étant celui de l'inconscient, du préconscient et du conscient. On peut à ce moment-là imaginer que le fonctionnement de l'appareil psychique viserait à rendre conscient cet inconscient. Mais rendre conscient ce qui est inconscient, nous le savons aussi que c'est quelque chose de tout à fait relatif. Ce que nous désirons plutôt, c'est mettre en mouvement quelque chose qui puisse passer de l'inconscient au conscient sans pour autant que l'inconscient soit rendu conscient, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'inconscient, que par conséquent il n'y aurait plus de modèle d'appareil psychique fait d'énergie, qui est typiquement une énergie inconsciente, puisque c'est une énergie qu'on ne peut pas formuler, c'est un pur concept énergétique, ce qui déboucherait sur une réalité consciente, quelque chose de parfaitement, disons que l'individu se présenterait là comme un individu brut, sans relief, sans épaisseur. Le préconscient est déjà un niveau différent dans cette topique, puisque le préconscient concerne les mots, le langage, et on pourrait dire là qu'il s'agit de réussir à transformer ce qui se passe dans cet appareil en langage accessible à l'autre. Une autre théorie topique, c'est la théorie dite structurale en Amérique, qui est la théorie du moi, du ça et du surmoi. Et bien là, Freud nous donne une idée beaucoup plus précise de ce que concerne la fin de la psychanalyse avec sa formule « Wo es war soll ich werden ». Cette formule, qui me paraissait très satisfaisante il y a un certain temps, pose un tel nombre de problèmes qu'elle est difficilement acceptable comme ceci. D'une part, parce qu'elle commence par « Wo es war », donc là où le ça était. Donc ça impliquerait qu'il n'y aurait plus de ça, ce qui de nouveau est très bizarre, que le sujet serait coupé de son ça, c'est-à-dire de ses origines pulsionnelles ou de ses origines énergétiques. Et soll ich werden, le moi devrait advenir, le moi devrait être, il y a bien le werden, le futur, donc l'idée d'un mouvement, d'une temporalité, du passé au futur, qui est quelque chose d'important, avec l'idée d'un but, c'est l'accès au moi, que le moi, en somme, prenne sa destinée en moi, en main. Mais il faut reconnaître que là, il s'agit du verbe sollen, qui est un verbe de qualitatif, un verbe de valeur, il s'agit d'un impératif, catégorique. Le moi doit ou devrait advenir. Nous avons par conséquent l'idée d'un mouvement, mais aussi l'idée d'une valeur qui font que ce n'est pas définitif. Ce n'est pas ici sera le moi et la partie sera gagnée. C'est pas du tout ça, c'est bien l'idée d'un mouvement. Le moi devrait advenir, il faudrait toujours faire en sorte que le moi advienne là où était le ça. Donc on a bien une idée de mise en mouvement, mais on n'a pas vraiment une idée de ce, par exemple, de quand on pourrait interrompre l'analyse. Une fois que c'est mis en mouvement, c'est continuel. D'autres théories nous montrent davantage cette idée de mouvement et cette idée de temporalité. Ce serait par exemple les théories de type génétique ou de type développemental. De type génétique, je penserais à la théorie du développement de la libido. Le développement de la libido passe donc par les stades oraux, anaux, phalliques et génitaux. Et on pourrait dire là qu'un développement convenable auquel on pourrait viser serait celui qui mènerait à l'accès à la génitalité. C'est évidemment un programme difficile à dire à quelqu'un qui vient nous voir, à quoi me servira la psychanalyse, à atteindre la génitalité, ce n'est pas quelque chose de bien enthousiasmant. Et par ailleurs, c'est évidemment quelque chose d'incomplet, puisque nous savons que dans toute activité génitale subsistent toujours des activités de type donc pré-génital, qu'elles soient orales, anales ou phalliques. L'autre développement est celui moins génétique mais plus temporel, le développement du moi, plus personnel, développement où l'on passe des stades auto-érotiques où il n'y a pas de moi, chaque endroit du corps se satisfait par lui-même, au stade narcissique, c'est l'avènement du moi qui prend contrôle de tous ces stades, au stade homosexuel et au stade hétérosexuel enfin. Là, nous avons quelque chose de beaucoup plus précis, il s'agirait pour l'individu qui fait une psychanalyse, c'est-à-dire dans le sens que j'entends par psychanalyse, l'individu qui est capable de pouvoir s'étendre sur un divan et de parler et d'écouter les interprétations, que cet individu devrait pouvoir arriver au stade hétérosexuel et que là, nous aurions en quelque sorte atteint le but de la psychanalyse. Actuellement, cela pose évidemment des problèmes, où actuellement on parle beaucoup d'homosexualité comme de quelque chose qui pourrait se mettre au même niveau que l'hétérosexualité, et où l'on dira par exemple, mais qu'adviendrait-il d'un psychanalyste homosexuel? Est-ce qu'un psychanalyste homosexuel peut fonctionner aussi bien qu'un psychanalyste hétérosexuel? La première objection qui se pose, c'est que l'homosexualité n'a pas comme visée la reproduction de la lignée humaine, c'est donc en quelque sorte une visée terminale, quelque chose de l'ordre de après moi le déluge. Et la deuxième objection serait une objection pratique, c'est-à-dire que quand on reçoit une personne qui vient faire une analyse et qui nous dit qu'elle est homosexuelle, on l'entend tout de suite comme une déclaration, du reste comme la plupart des déclarations qu'il fait, de type résistentiel ou de type défensif. Je suis homosexuel, soit je l'affirme comme ne voulant pas changer, soit au contraire je le présente comme quelque chose qui devrait se changer. Ce qui n'est pas du tout du même ordre quand quelqu'un vient se présenter en nous disant « je suis hétérosexuel ». S'il le dit, on va le voir comme défensif en se disant « bon, ben, il l'affirme, c'est parce qu'il y a probablement des traits qui ne sont pas hétérosexuels qui le gênent ». Mais s'il ne le dit pas et que ça paraît dans la conversation qu'on comprend que cette personne est hétérosexuelle, eh bien, on ne le comprend pas comme quelque chose qui tout de suite éveille notre suspicion. Après ces deux modèles théoriques plus développementaux, avec une direction donc plus nette dans le sens du temps qui avance et de l'espace, donc de type plus scientifique, on peut encore faire allusion à deux manières de voir qui seraient des manières plus allégoriques, qui nous amèneront du reste à la fin de cet exposé. La première manière de voir allégorique, c'est d'imaginer l'antithèse par rapport au patient qui se présente, d'un père castrateur et du mère phallique. Et à partir de ces deux antithèses, de cette opposition entre ces deux personnages, imaginez toute la vie fantasmatique dans la direction progressive, progrédiente en direction du père castrateur, ou régressive, régrédiente en direction de la mère phallique. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ceci nous mène à un modèle beaucoup plus fondamental qu'est le modèle édipien, lequel présente aussi un aspect structural et un aspect spatio-temporel, l'aspect temporel étant que le pré-Édipe serait réservé en principe à l'enfance, à moins qu'il sujette et qu'il subsiste dans le développement ultérieur. L'Édipe, stade phallique, serait localisé à une certaine partie de l'enfance, et enfin le post-Édipe avec l'Untergang se dirigerait du côté de l'état adulte. Donc la psychanalyse adulte devrait viser à un état post-édipien. Cet état post-édipien pose le problème de savoir ce qu'on entend par là. Il y a plusieurs termes allemands. L'Untergang, qui est un déclin, la Zerstörung ou Zerbrechung, c'est-à-dire qui est une sorte de destruction du complexe d'Édipe. Là aussi, nous reviendrons dans un instant. Toutes ces théories ont ceci de particulier que c'est, comme disait John Rickman, des théories des one-body theories, c'est-à-dire c'est des théories à une personne. Or, l'expérience est une expérience à deux personnes. Et pour arriver à une théorie qui nous satisfasse plus sur au point de vue de l'expérience, puisque c'est l'expérience qui nous mène à la fin de l'expérience qui est là le problème qui m'intéresse, il faudrait arriver à des two-body theories. Ce qui voudrait dire qu'on prendrait en ligne de compte tant l'analyste que l'analysant. On s'aperçoit tout de suite à ce niveau que toutes les théories dont je vous ai parlé peuvent s'appliquer tout aussi bien à l'analyste qu'à l'analysant. Que donc il n'y a pas de différence concrète quant à l'appareil psychique, entre un analyste et un analysant. Chacun sont situés au même niveau, à chacun peut s'appliquer le Vaux, Esmars, de Lichverden, à chacun peut s'appliquer le fait qu'il faut qu'il ait atteint un développement homosexuel ou une libido génitale. Chacun doit tenir compte du principe de réalité par rapport au principe de plaisir. Il n'y a donc pas de différence fondamentale entre l'un et l'autre. Mais bien sûr, ce qui est important, en plus, quand on passe à la two bodies theory, c'est le problème de la parole, le problème du dire. Et j'aimerais m'arrêter un moment là-dessus, parce que je crois qu'il est absolument fondamental, toujours, de reprendre le problème de la parole, aussi bien que les autres problèmes psychanalytiques, puisque le problème de la parole est quand même celui qui joue le rôle le plus important dans la situation psychanalytique. Et ceci, ici, je ne voudrais pas insister sur les questions relatives, par exemple, à le symbolisme de la parole, avec la métaphore et la métonymie, ou au signifiant, au problème du signifiant et du signifié, mais j'aimerais insister sur un autre problème concernant la parole, c'est la valeur synthétique de la parole, le pouvoir unitaire, tout à fait extraordinaire de la parole. C'est un pouvoir immatériel, unitaire, qui fait que grâce à la parole, on peut justement, quand il s'agit par exemple de situation psychanalytique, faire en sorte qu'il y ait union entre analyste et analysant, désunion entre analyste et analysant, et toujours grâce à la parole, réunir l'union et la désunion à un niveau supérieur. Ce pouvoir unitaire est tout à fait important et il est souligné, par exemple, dans le projet que l'on donne au psychanalysant, où on lui dit la règle fondamentale au début, c'est-à-dire on lui dit « dites tout ce qui vous passe par la tête », ce qui, sous-entendu, signifie que nous allons aussi l'écouter. Et qu'est-ce qu'on lui propose ? On lui propose des associations. Et la parole a aussi un pouvoir associatif. Ici, je citerai Hubert Bauer qui m'a donné cette idée intéressante. C'est que le pouvoir associatif n'est pas seulement que les mots vont s'associer et que le sujet va associer les mots, mais l'autre idée est que les mots vont associer les sujets. Alors, je proposerai cette idée d'inverser les rôles, le rôle de l'association. L'association viendrait à partir de la parole. Et la parole permettrait, dans une perspective régressive, de faire sortir, au niveau du discours, l'association, par exemple, de ce trio criminel édipien, qui est Laïus, Jocaste et Édipe. Et l'association permettrait, de nouveau, du fait de ce pouvoir unitaire, de passer à un trio qui ne serait plus de ce type-là, mais un trio beaucoup plus culturel, pourrait-on dire, du père, de la mère et de l'enfant. Dans le même contexte, on peut dire que la parole permet de dire l'association de la horde, de cette horde de vandales qui met à mort le père primitif, à une société civilisée, cultivée, une société qui sait maîtriser tes instincts et qui n'est plus au niveau de la horde de sauvages. Et on voit de ce fait l'ambiguïté ou l'étrangeté de la règle fondamentale, c'est en quelque sorte un piège. Parce que quand on l'a dit, ce que on dit, on donne au patient comme une sorte de liberté. Enfin, je peux tout dire. Et on sait en même temps que cette règle fondamentale ne va pas du tout lui permettre de tout dire, mais va diriger les associations dans un certain sens, c'est-à-dire dans le sens régressif. Je vais dire tout ce qui m'ennuie, tout ce qui me gêne, tout ce qui fait que je suis venu en psychanalyse, et peu à peu, de fil en aiguille, remonter à mes origines, qui sont celles qui m'ennuient, donc à me diriger dans un discours en quelque sorte un discours trompeur, puisque je vais être pris au piège de transférer sur l'analyste, qui est mon interlocuteur, mes difficultés initiales, et donc de faire un discours qui comportera deux sens, le discours adressé à l'analyste et le discours qui m'échappe, qui est ce que j'adresse à l'analyste, provient en fait d'une origine lointaine. Nous allons y revenir du reste tout à l'heure aussi, mais avant d'y revenir, je voudrais souligner combien le problème de la parole, du fait que l'expérience psychanalytique est parlée, sort la psychanalyse d'une sorte de ghetto pour la rendre à la fois scientifique, grâce par exemple au lien très intime qu'elle va avoir avec la linguistique. Toutefois, il est intéressant de constater qu'en linguistique, la parole est à la fois l'instrument et le but. De nouveau, voilà l'idée unitaire qui apparaît. On sait que les linguistes vont s'intéresser à la parole de manière de plus en plus compliquée, la découper d'une manière absolument invraisemblable. Mais ceci dans quel but ? De retrouver ce qui est fondamental à la langue, de retrouver l'unité de la langue. Et quand on demande aux linguistes ce qu'ils font, par exemple, à un moment, en quoi consiste l'existence de Ferdinand de Saussure à propos de la langue, il dit, mais la langue se fait par la langue et pour la langue. Il y a quelque chose de tout à fait fermé là-dessus. Pourquoi ? Quels moyens on emploie pour étudier la linguistique ? La langue, et dans quel but ? Et bien dans le but de savoir ce qu'est la langue, et il n'y a pas d'autre but. La linguistique se suffit en elle. Bien sûr, il y a toutes sortes de bénéfices secondaires qui sortent par la suite. À savoir, par exemple, la manière de manipuler la langue, et puis les problèmes interdisciplinaires avec les autres disciplines qui peuvent surgir au cours de l'effort linguistique. Mais néanmoins, le linguiste pur ne s'intéresse strictement qu'à la langue et aux moyens de la langue. C'est donc pour souligner ce caractère unitaire. L'autre aspect qui fait que nous ne sommes pas seuls en psychanalyse, c'est le lien de la psychanalyse avec tout ce qui est philosophie et religion. Vous vous rappelez de l'évangile selon Jean. Comment cet évangile commence ? C'est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et tout ce qui a été fait avec la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. La parole est là quelque chose d'absolument fondamental et d'absolument, justement, ce caractère unitaire que j'essaye de souligner. Mais bien sûr, ce caractère unitaire n'est pas que positif, puisque on peut dire, par exemple, que Hitler avait certainement le don de la parole. Ce qu'il savait faire brillamment, c'était de vociférer, de hurler devant les foules, ce qui contrastait tout à fait avec la pauvreté de sa réflexion de ce qu'il a écrit, ce misérable Mein Kampf et c'est tout. Mais néanmoins, grâce à cette vocifération, il a réussi à enflammer toute une nation dans un but trompeur de nouvelle civilisation, et grâce à elle a entraîné d'abord la première civilisation, la civilisation antérieure à sa ruine, pour entraîner sa nouvelle civilisation à la ruine que l'on sait également. Donc le pouvoir unitaire de la parole est fantastique, mais le pouvoir destructeur de la parole est fantastique aussi, et nous en apercevons tous les jours dans notre activité quotidienne de psychanalyste. Ceci me ramène à notre problème. Et pour reprendre de manière plus concrète, je vais par exemple vous citer rapidement un rêve, celui qu'on a entendu à Berne l'autre jour, mais je le limiterai à la plus simple expression. Un patient rêve qu'il y a une série de serpents dressés menaçant devant lui sur la terre. Alors comme psychanalyste, mon idée c'est que je verrai en image ces serpents dressés devant moi et que donc je me sens dans la même situation que le patient, menacé. Si je fais un seul mouvement, les patients peuvent me tomber dessus et me mordre. Je suis donc paralysé. Pour me sortir de ma paralysie, je puis imaginer une sorte de fonctionnement mental qui irait dans le sens du principe du plaisir et de la satisfaction hallucinatoire du désir. Et j'imaginerais par exemple que j'ai une baguette magique, ce qui est aussi symbolique du serpent, et que je ferais disparaître ces serpents. Donc le rêve serait nul et non advenu, le problème serait écarté, mais aussi ne serait pas résolu pour autant. Il serait dénié. Ou bien, à l'autre bout de l'activité, je peux imaginer une activité cérébrale et inventer une explication de ce rêve, ou, ce qui est encore plus compliqué, une interprétation qui puisse satisfaire à la compréhension de ce rêve. Et par exemple, je pourrais dire que, disons que, je pourrais dire au patient, avec votre rêve, vous tentez de me séduire et de me menacer comme si j'étais encore plus dangereux que les serpents eux-mêmes. Voilà un type d'interprétation, on peut en faire mille autres, mais qui ferait que grâce à la parole, on remettrait en mouvement l'appareil psychique, tant de l'analysant que de l'analyste. Ces deux pôles me mènent à un problème d'identité. Que suis-je dans ces deux circonstances, celui qui est paralysé ou celui qui interprète ? Et Freud a employé à ce moment-là, dans le début de ses écrits, à l'époque de la science des rêves, deux expressions qui me paraissent bien les signaler. Il a parlé à un moment d'identité de perception et d'identité de pensée. Je pense que là, il faut prendre les choses à la lettre et entendre identité comme identité et non pas comme identification. Autrement dit, la personne qui aurait une identité de perception serait, si je puis dire, celle qui a une identité de percepteur. Il marche selon la perception. Au contraire, l'identité de pensée marcherait l'individu fonctionnerait avec une identité de penseur. L'identité de perception, je peux vous en donner un exemple. Par exemple, je vois là, il y a quelqu'un qui a un pull vert rouge. Alors, si j'ai une identité de percepteur, de perception, je dirais que je vois rouge là et que j'espère que vous-même qui m'entendez, pouvez avoir une identification à ce moment-là avec ce que je dis et voir le rouge que je vois. Mais comme je n'ai pas précisé, c'est ni carmin, ni vermillon, ni écarlate, etc., je ne peux pas savoir quel rouge vous voyez, mais je peux m'imaginer que nous voyons le même rouge. Au niveau de l'identité de pensée, il s'agit d'un processus plus symbolique. Si je dis à ce moment-là je vois rouge, c'est-à-dire je suis en colère, qu'est-ce que je peux espérer ? C'est que vous comprendrez ce que je dis en disant je vois rouge, mais je n'aurai aucune idée de ce que vous serez à ce moment-là si vous voyez rouge en m'écoutant, si vous êtes en colère, ou si vous ne voyez pas rouge et que ça se passe au niveau de la compréhension, et je n'aurai aucune idée de quelle sera la qualité de vos affects, même si j'estime que vous avez entendu correctement, selon mon identité de penseur, ce que je vous ai dit. Ces deux pôles entre la perception et la pensée m'amènent au chapitre 7 et à un autre problème dont je voudrais vous parler, qui est celui de la théorie de l'après-coup. Vous savez que la théorie de l'après-coup n'est pas précisée chez Freud, c'est Lacan qui l'a beaucoup reprise, mais qu'au fil au fur et à mesure de la lecture, au fil de la lecture de Freud, on s'aperçoit de ce que signifie à peu près cette théorie de l'après-coup. Dans le chapitre 7 de la science des rêves, vous vous souvenez sans doute du premier schéma où Freud parle en comparant l'activité psychique à l'activité réflexe de Fechner. Il compare le pôle perceptif et le pôle moteur de Fechner. Il le prend pour faire une théorie en disant que dans l'activité psychique aussi, il y aura un pôle de perceptif où la personne pourrait percevoir un certain événement qui laisserait une trace mnésique dans l'appareil psychique avant que aboutisse le pôle, à ce moment-là il dit de penser, mais on pourrait aussi dire le pôle du dire, de l'expression verbale. Et quand ce schéma très premier, très primitif s'élabore, on s'aperçoit que on peut voir les événements sous forme de deux séries d'événements, une série d'événements qui seraient à ce pôle perceptif, qui seraient des événements qui laisseraient une série de traces mnésiques dans l'appareil psychique. Ces traces mnésiques étant composées, comme on l'a vu, d'énergie à potentiel différentiel. Il y aurait donc tout un chargement énergétique de l'appareil psychique qui se passerait avec ces traces, qui va se développer en ce qu'on a appelé plus tard le processus primaire, car toutes ces énergies à l'intérieur sont des énergies libres, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer, se condenser, que donc les traces mnésiques peuvent varier, suivant on ne sait quel... peuvent varier dans tous les sens, devenir extrême avec un potentiel chargé ou un potentiel bas, et l'une trace mnésique pouvant renoncer à son potentiel au profit de l'autre, mais que dans l'ensemble, le système énergétique serait un peu conçu comme un système clos, l'énergie est toujours là. Et alors arrive, dans la théorie de l'après-coup, le second événement, c'est aussi la théorie de la résolution des symptômes névrotiques, c'est la même chose. Le second événement qui, lui, sera significatif et qui va pouvoir être conscient et être chargé d'une certaine qualité affective. Alors ce second événement a ceci de particulier que s'il devient conscient, s'il n'est pas considéré comme un premier événement, c'est qu'il rappelle en quelque sorte les premiers événements et qu'il se passe quelque chose d'associatif entre les deux. Voilà, on retrouve la parole avec les associations. Et ce quelque chose d'associatif va faire que le premier événement, la trace mnésique, va se trouver réveillée pour le temps, va devenir une inscription, et en même temps que l'énergie qui sera à ce moment-là condensée ou déplacée en fonction sur cette trace mnésique va pouvoir aussi se déplacer dans le sens progrédient vers le second événement et surcharger, surinvestir le second événement. On a donc un mouvement énergétique qui va de l'événement second à l'événement premier et vice-versa, de l'événement à la trace mnésique et à l'événement des processus secondaires, parce que l'événement surchargé va être dit, va donc être acquérir une sorte de stabilité par rapport au processus primaire où les événements ne sont pas dits et sont là pris dans ce maelstrom d'agitation inconsciente, énergétique, propre à l'appareil psychique fondamentale comme modèle théorique. Et alors ce qui est intéressant au point de vue justement de la théorie de l'après-coup, c'est que le second événement va être un leurre. Le second événement va être un leurre parce qu'il va être surchargé de quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartenait au premier événement. Autrement dit, ce qu'on va dire, ce qu'on va vivre consciemment, ne va pas être la réalité brute, va être une réalité surchargée d'autre chose, et c'est cette autre chose qui va aussi faire l'objet de l'intérêt psychanalytique, tant pour découvrir cette autre chose que pour essayer de dégager ce second événement de son leurre, pour essayer de voir en quoi il correspondrait vraiment, si tant est qu'une démarche pathologique pareil est possible. Alors on retrouve le problème des associations et du langage à travers cette idée de leurre. Vous savez qu'en fauconnerie, en vénerie, en fauconnerie, le leurre est un objet qu'on a dans la main pour que le faucon revienne, et que cet objet est fait avec essentiellement des plumes du faucon qui peuvent transmettre son odeur, garder son odeur. Et puis, par exemple, un appât tel qu'un bout de viande sanguinante ou quelque chose de telle sorte qui fait que le faucon va pouvoir revenir. Alors, on voit l'idée du leurre aussi qu'on retrouve dans la règle fondamentale. La règle fondamentale, c'est la liberté, c'est le faucon qui s'en va. Mais en même temps, la règle fondamentale, c'est dire. Dire, c'est donc dire avec, comme second événement, avec la surcharge provenant du premier événement, et donc c'est pouvoir par ce biais retrouver le premier événement, retrouver le point de départ. Et cette idée de l'après-coup est très intéressante parce qu'elle généralise ce qui se passe en psychanalyse, alors qu'on avait des idées pareilles, par exemple dans les théories de la névrose, où on pensait que le symptôme névrotique était la répétition déformée d'un premier symptôme de type sexuel, mais qui faisait à théorie qui faisait appel à quelque chose de beaucoup plus restreint, qui était quelque chose de pathologique et de normal. Tandis que là, la théorie de l'après-coup, c'est une théorie tout à fait générale, liée au fait qu'en psychanalyse, on parle et qu'on écoute. Mais il s'agit de pouvoir dire ce que c'est que cet appareil psychique, si on veut aller plus loin. Parce que si on se contente de l'idée d'énergie, alors on ne peut jamais découvrir, il n'y a pas de modèle qui nous aide à découvrir, puisqu'on ne peut pas le découvrir. On ne peut pas mettre des mots sur l'énergie, on découvre que l'énergie. Alors Freud a trouvé important de pouvoir le dire pour pouvoir, en quelque sorte, continuer la réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus primaire, dans cet appareil psychique où il n'y a que de l'énergie? Eh bien, il s'organise selon les trois fantasmes primitifs, les trois fantasmes primaires, qui est une manière de dire l'inconscient. Le premier fantasme originaire, c'est donc le fantasme de la scène primitive, qui est un fantasme qui est symbolique de la naissance de l'individu au monde, donc fantasme où, dans la scène primitive, les deux parents coïtent, font l'amour, forniquent, et le produit de cette activité est la naissance de l'individu. L'on naît. Le second fantasme est le fantasme de séduction, qui est le fantasme de l'introduction de la sexualité dans l'enfant. Alors il s'agit que l'un des parents puisse séduire l'enfant. Ceci implique quelque chose de bien précis. L'enfant répond donc à ce fantasme de séduction, mais en même temps, le parent quitte l'autre parent pour pouvoir séduire l'enfant. Il y a donc abandon de l'autre parent. Et si l'on se place au niveau de l'enfant, qui lui, dans une théorie one body, qui est donc la théorie de la personne comme enfant, on va retourner la situation et dire que l'enfant en effet séduit l'un de ses parents à ce moment-là, mais que donc comment vit-il cette séduction? Par l'élimination de l'autre parent, il la vit symétriquement au meurtre. Il y a donc inceste et parricide qui sont compris dans le fantasme de séduction. Le troisième fantasme, le fantasme de castration, peut être vu comme le retour du parent soi-disant tué par l'enfant. Le parent revient, on peut dire mécontent d'avoir été éliminé, il récupère l'autre parent, il reforme un couple et il châtre l'enfant de son insolence et de sa tentative de meurtre. Et alors l'enfant se retrouve dans l'état de castration. Alors il ne s'agit pas que de l'enfant, il s'agit aussi du psychanalysant et il s'agit aussi de la personne. La personne en général, c'est le sujet du fantasme de séduction, de castration et du fantasme des scènes originaires. Ceci nous mène directement à l'activité psychanalytique et au transfert. Le transfert, c'est donc, à l'instar de la théorie de l'après-coup, c'est le fait que la personne en parlant, et grâce à la possibilité associative de la parole, va faire un discours de type leurre, un discours trompeur à son insu. C'est un discours où, comme le faucon, le transfert, la personne qui transfère, va revenir, va se diriger vers l'analyste, mais en même temps, va revenir à ses origines. Donc l'analyste va entendre ce discours double, ce qu'il le dit, ce que le patient dit, il le dit à moi, mais en même temps, il s'adresse à moi comme si j'étais les personnes de ses origines, les trois fantasmes originaires, ou bien il s'adresse à ces trois personnages comme s'il me parlait à moi. Il y a donc là le leurre du transfert. Et le transfert va amener l'analyste à prendre des décisions par rapport à ce discours. Il a quatre possibilités. Soit il n'intervient pas, soit il intervient en se défendant, soit il intervient en acceptant, et soit la quatrième possibilité, celle que je voudrais vous proposer, il intervient de manière neutre. Que le psychanalyste n'intervienne pas, c'est quelque chose de bien connu. Par exemple, Freud ayant dit que le transfert est à la fois l'instrument le plus précieux et en même temps le plus dangereux pour la psychanalyse, il y a des théoriciens tels que, je crois que Ruth McCrunchy était de ceux-là, qui disent « mais ça suffit que le transfert s'exprime et que nous l'écoutions, il n'y a pas besoin d'interpréter ». On peut très bien le comprendre théoriquement, puisque on peut dire que l'analysant, s'il joue le jeu, s'il associe, va se trouver pris dans ce double discours dont il va devenir conscient. Il va s'apercevoir qu'il est en train de dire des choses à l'analyste, et au lendemain, s'apercevoir que ces choses n'étaient pas justifiées. Que par exemple, s'il a un mouvement d'humeur ou une passion, il ne comprend pas pourquoi il a un mouvement d'humeur et une passion à quelqu'un qui paye pour l'écouter. Et il va se demander d'où vient ce mouvement d'humeur, d'où vient cette passion, et il va pouvoir peu à peu retrouver ses origines par la simple vertu du discours associatif. Les autres possibilités sont bien entendu d'interpréter. Alors, interpréter de manière défensive, c'est-à-dire non, il ne s'agit pas de moi, je me défends d'être l'objet du transfert, il s'agit de ces objets lointains, vous vous trompez, il s'agit de ces parents que décrivent les fantasmes originaires, et je vais l'interpréter dans ce sens. Alors, dans quelle situation se pose l'analyste ? L'analyste se pose en refusant dans la situation du père castrateur. Donc, il châtre l'analysant du discours que l'analysant tient à faire au psychanalyste. Et alors, si l'on voit la progression de l'enfant dans le sens de la scène primitive à la séduction et à la castration étant l'angoisse terminale que l'individu doit apprendre à gérer pour arriver au bout de la psychanalyse, on peut dire à ce moment-là que l'analysant, châtré par l'interprétation de l'analyste, va régresser au stade précédent, au stade de la séduction. En régression au stade de la séduction, il va être un enfant d'accord avec ce que dit l'analyste, mais en même temps, ayant châtré, ayant tué, ce avec quoi il n'était pas d'accord, le refus. L'analyste refusant disparaît et il n'y a qu'une acceptation de l'enfant de ce que l'analyste a dit. Autrement dit, la situation est insupportable parce que dans la situation de séduction, on n'est que plus que deux et que l'analyste devient comme, on dira une mère, mais en fait un être étouffant puisqu'il n'y a plus que deux personnes, devient tellement central et tellement étouffant que c'est impossible pour l'analysant de s'en tirer à si bon compte et qu'il va procéder de nouveau à une réduction au niveau du fantasme scène primitive où il va se trouver l'enfant de deux parents, donc retrouver ses deux parents. Mais, drame, c'est que ces deux parents se mettent à forniquer entre eux et l'enfant ne peut qu'assister impuissant à leur fornication et ne peut que sombrer dans sa solitude, une solitude qui sera alternance d'impuissance et de toute puissance où il va se trouver du fait de cette interprétation à l'origine qui refuse. Si l'on se place à l'interprétation qui accepte, on se met dans la même situation, sauf qu'on saute le stade de la castration, le psychanalyste se met d'emblée dans la situation de séduction. Et c'est là un des grands inconvénients, un des grands dangers de l'interprétation psychanalytique, c'est de vouloir être bon avec ses patients et les comprendre de manière séductrice. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que vous dites, en effet, vous avez vécu tellement de malheurs et tout ça, je comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'on les met dans une situation de séduction. Les malheurs, c'est ce qu'il faut tuer, c'est l'histoire qu'il faut tuer, c'est le parricide, et le bonheur, c'est avec l'analyste. Le patient se trouve de ce fait complètement de nouveau bloqué et coincé, il va régresser au stade précédent et retrouver à travers l'analyste des parents de la scène primitive, mais se retrouver donc seul et en état de désespoir, en oscillation entre la toute-puissance et l'impuissance par rapport à ses parents qui ne s'intéressent plus à eux, plus à lui, puisqu'ils sont en train de faire l'amour entre eux. Reste la quatrième solution, qui est la solution neutre. Ce que j'aimerais arriver à faire, c'est faire une interprétation qui soit neutre, qui ne soit ni séductrice, ni castratrice, ni toute puissante, comme le serait l'interprétation du fait au niveau de la scène primitive. Et l'interprétation neutre est très difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être neutralisé par rapport aux autres, mais il s'agit de neutraliser en quelque sorte nos propres affects qui proviennent de notre propre inconscient, de neutraliser la passion qu'on pourrait mettre dans le contre-transfert. Alors une interprétation neutre, par exemple au niveau du rêve dont je vous ai parlé tout à l'heure, serait une interprétation qui soulignerait, je pense, l'ambivalence davantage que je ne l'ai fait. En disant, en montrant à l'analysant qui rêve de ces serpents, que l'analysant voudrait à la fois me séduire avec ces serpents qui dansent et m'immobiliser, c'est-à-dire me rendre impuissant ou me châtrer comme on veut avec ces serpents menaçants, comme s'il ne savait pas s'il voulait ce qu'il voulait faire de moi. Donc, soit me séduire, soit me châtrer.